Chapitre 80. Dans le port de Sirimundi, la situation des défenseurs se compliquait de minute en minute. Après avoir bombardé de torches les quais et la voilure des bateaux commerciaux encore arrimés, les pillards, abandonnant leurs rames, sautaient à terre, fonçaient droit devant eux et taillaient en pièces les dockers saisis de terreur qui tentaient maladroitement de leur barrer le chemin. Avec des rugissements conçus pour tétaniser leurs victimes, les guerriers et les guerrières à la bouche fendue se révélèrent impossibles à arrêter. À coups de hache, de marteaux de guerre et de lances, ils décapitèrent, égorgèrent ou éventrèrent les défenseurs, puis continuèrent leur chemin sans même glisser sur le bois pourtant poisseux de sang. Comme on pouvait le redouter, les flammes se propageaient aux entrepôts, aux boutiques et aux marchés couverts. Partout, des familles entières fuyaient à pied vers les collines ou tentaient de s'échapper par les canaux dans de petites embarcations. Certaines d'être prospères et en paix depuis trop longtemps, Sirimundi payait son insouciance au prix fort. Pourtant, le flux commençait à s'inverser. Après avoir envoyé au loin leurs familles, de courageux citadins retournaient vers le port, une arme improvisée au poing. Quelques vétérans semblaient avoir exhumé les casques, les plastrons, les épées rouillées et les boucliers qu'ils gardaient en souvenir, et eux aussi accouraient à la rescousse. Même si trois galères étaient à présent arrimées au quai, il n'y avait guère plus de 200 Norukai à terre. Grâce à ses réserves, la ville pouvait encore sauver sa peau. Sur le pont de la Vierge des Brumes, Nichi suivait les combats du coin de l'œil. Mais elle s'intéressait surtout aux cinq galères les plus proches. Son armada improvisée faisait montre d'une louable détermination, mais les matelots inexpérimentés crevaient de peur sous leurs masques de bravoure. Très calme, Nichi se concentra sur le capitaine Kor qui la défiait du regard. Non loin d'elle, le second de Ganli saisit son épée à deux mains et fit mine de charger. Aussitôt, une lance se planta dans sa poitrine. Crachant du sang, il lâcha son arme et tomba à genoux. Face à leur premier mort, les matelots gémirent de détresse. Mais l'heure n'était pas au deuil. À présent, c'était les pillards qui chargeaient. Si elle ne pouvait plus rien pour le second de Ganli, Nichi était en mesure de le venger. Repérant la guerrière qui avait propulsé la lance, une femme aux épaules de bûcheron qui éructait encore de triomphe, elle invoqua son don, partit en quête du cœur de la tueuse et referma dessus un point invisible. La guerrière s'écroula devant un de ses camarades qui trébucha sur son corps et fit un vol plané. Histoire de faire bonne mesure, Nichi arrêta aussi le cœur de ce crétin. Partout la bataille faisait rage. Alors que trois autres marins étaient tombés, Otto fracassait des crânes et brisait des membres avec une énorme massue. Le capitaine Ganli brandissait une épée d'apparat émoussée dont il ne savait manifestement pas se servir. Attaqué par de Norukai, il lâcha l'arme et s'empara d'un crochet avec lequel il parut tout de suite plus à l'aise. Mobilisant toutes ses forces, il dévasta le visage de son premier adversaire. L'autre voulut frapper de taille, mais il passa sous sa garde et lui enfonça le crochet dans la poitrine. L'air ébahi, le pillard regarda l'arme qui saillait de sa chair comme s'il était vexé qu'on ose le tuer au début d'un carnage si prometteur. Blême mais déterminé, Ganli dégagea son crochet et se tourna vers un autre adversaire. Toujours campé face à Nichi, Kor harangua ses troupes.
« Norukai, le roi calvaire vous a envoyé à la mort, mais vous n'aurez pas le droit de crever avant que nous ayons vaincu au nom du dieu serpent. Jusque-là, cinq villages ont disparu de la surface du monde. À présent, c'est une ville qui s'offre à nous !»
Une hache dans une main et une épée dans l'autre, le capitaine avança. Depuis Renda-sur-Bay, Nichi abominait tous les Norukai. Cela dit, tuer celui-là lui procurerait un plaisir particulier. À Ildakar, elle l'avait vu rouer de coups des esclaves et rire à gorge déployée de leur souffrance. Au bout de ses doigts, le pouvoir crépitait. Comment tuer ce chien ? En arrêtant son cœur, avec du feu de sorcier ou en le jetant par-dessus bord avec un point d'air ? Mais Kor s'adressa à elle, l'incitant à se retenir un peu.
« Comment on se retrouve, magicienne ? Je pensais que le roi calvaire te tuerait à Ildakar pendant sa glorieuse invasion, mais ce plaisir semble m'être réservé. »
Nichi riposta sans faire dans la dentelle.
« J'ignore qui est ton abruti de calvaire, mais je serais ravi de t'étriper. »
Ce duel ne devait pas s'éterniser, si elle voulait pouvoir défendre les marins. Levant une main, elle s'apprêta à... À cet instant... La galère la plus proche explosa. Comme si elle montait de la cale, une énorme boule de feu déchira le navire de l'intérieur.
Du feu de sorcier.
Où qu'il soit touché, grièvement ou pas, les Norokai présents sur la galère finiraient par crever, inexorablement consumés par un incendie impossible à éteindre. Une fin horrible quand on se croyait très légèrement blessé. La galère éventrée bascula sur un côté. Prenant l'eau de toutes parts, mais surtout par le ventre, elle ne tarderait pas à couler. Sur le pont de la Vierge des Brumes, les pillards grognèrent d'indignation.
Comment, diantre ?
Une deuxième galère s'embrasa, dévorée comme la précédente par des flammes qui montaient de ses entrailles. Encore quelques minutes et ce ne serait plus qu'une épave. Sous l'eau, Nietzsche repéra les deux dernières lucioles portées par les pêcheurs de Perlesouet. Dès qu'ils eurent livré les bouteilles piégées, deux galères supplémentaires furent dévastées en un clin d'œil. Si tout se passait bien, les quatre plongeurs, dans quelques minutes, émergeraient à la surface, le souffle court, mais le cœur rempli de fierté. Un instant, Nietzsche envisagea de parachever son œuvre en carbonisant le navire de corps, mais elle y renonça. Collée à la Vierge, la galère risquait d'y flanquer le feu.
Conscient que Nietzsche était responsable du désastre, même s'il n'aurait su dire comment, Cor bondit et frappa d'abord avec sa hache.
Dès que Nietzsche eut esquivé, le tranchant sifflant au-dessus de sa tête, le capitaine fit suivre son assaut d'un coup d'épée. Cette fois, Nietzsche pirouetta sur elle-même. Un peu trop tard peut-être, car la lame coupa sa robe noire et lui entailla la peau. Avec un mur d'air, Nietzsche repoussa son adversaire, mais il se campa sur ses jambes, résista, puis tenta de nouveau plusieurs feintes. Décidé à lui écrabouiller le cœur, Nietzsche tendit une main, mais sa cible bougeait trop vite pour qu'elle puisse localiser et saisir son organe vital, et si elle perdait trop de temps à essayer, elle risquait de prendre un mauvais coup. Après la destruction de quatre galères, les Norokai, fous de rage, se jetèrent sur les marins sans se soucier de survivre ou non à la bataille. Une forme de folie très semblable à celle qui s'emparait parfois de Bannon dans les situations désespérées.
« Vous allez mourir !» cria Cor. « Pour vous tous, ce sera un calvaire, comme à Ildakar en ce moment même !»
Aveuglé par la haine, le capitaine abattit sa hache sur le pont dont plusieurs planches éclatèrent.
« Le monde entier connaîtra le roi calvaire, mais Sérimundi n'oubliera pas de sitôt le capitaine Cor !»
Au dernier moment, Nietzsche renonça à briser la colonne vertébrale du Norokai. Il fallait qu'elle en apprenne plus long.
« Comme à Ildakar ? » répéta-t-elle. « La ville est attaquée ? Comment ?»
Au moment de son départ, le général Outros assiégeait la cité. Mais qui aurait songé à une attaque des esclavagistes ?
« 50 galères, magicienne ! Le roi Calvaire commande des milliers de guerriers, et grâce à moi, il détient toutes les informations requises pour prendre la ville. Pendant la conquête du monde, Ildakar sera sa capitale !»
Nietzsche tenta d'imaginer une force navale 5 fois supérieure à celle qui avait fondu sur Sérimundi, avec Outros d'un côté et les Norokai de l'autre. Combien de temps Nathan et le Douma tiendraient-ils ?
« Dès que je t'aurai abattu, » dit Nietzsche, « je retournerai là-bas pour m'occuper de ton roi. Avant de l'exécuter, je lui dirai comment tu es mort. »
Cor eut un rictus haineux.
« Je suis déjà mort, magicienne. Sur ordre de Calvaire, je dois me battre jusqu'à ce qu'un ennemi me tue, et c'est très exactement ce que je ferai. Mais avant de quitter ce monde, je verrai ton cadavre. »
Les yeux brillants de folie, le capitaine chargea. Il voulait crever. Eh bien, Nietzsche allait exaucer son souhait. Invoquant un étau d'air, elle le mit en place sur le crâne de Cor, augmenta la pression et transforma son cerveau en une infâme bouillie. Sans le regarder s'écrouler, elle se tourna vers les autres pillards, avide de les vaincre et de sauver Sérimundi. Sur les quais, presque tout brûlait. Mais la destruction de 4 galères avait brisé l'élan des esclavagistes. Si quelques centaines résistaient encore, les défenseurs, le moral regonflé, les rejetaient peu à peu à la mer. Nietzsche dégaina un de ses couteaux, celui de droite, et fit crépiter du feu de sorcier au bout des doigts de sa main gauche. D'Ildakar, elle s'en occuperait plus tard. Pour l'heure, seule comptait la bataille en cours. Arenda sur Bel avait tué des centaines d'esclavagistes. Eh bien, aujourd'hui, elle recommencerait.
Un travail comme un autre, après tout.